Ben-Hur, chapitre 34, Amra, fidèle servante. Le surlendemain, dès le grand matin, Amra descendit la vallée du Cédron jusqu'au puits d'En-Rouguel, près duquel elle s'assit sur une pierre. Un habitant de Jérusalem, s'il l'avait regardée, n'aurait pas manqué de dire qu'elle devait être la servante favorite d'une famille aisée. Elle avait avec elle une cruche vide et une corbeille dont un linge blanc comme la neige recouvrait le contenu. Elle les déposa à côté d'elle, détacha le châle qui recouvrait sa tête, et joignant ses mains sur ses genoux, elle se mit à regarder droit devant elle, dans la direction où les collines s'inclinaient abruptement vers le champ du potier. L'heure était si matinale que personne ne l'avait devancée. Bientôt, pourtant, elle vit venir un homme qui portait une corde et un seau de cuir. Il salua la petite femme au visage noir, fixa la corde au seau et attendit les pratiques. Ceux qui le préféraient pouvaient puiser l'eau eux-mêmes. Lui le faisait par métier, et pour un prix fort minime, il remplissait la plus grosse cruche qu'une robuste matrone put porter. Amra ne disait mot, et l'homme, voyant sa cruche, lui demanda au bout d'un moment si elle ne désirait pas qu'il la remplît. « Pas encore, » répondit-elle poliment, sur quoi il cessa de faire attention à elle. Lorsque le soleil se leva au-dessus du mont des Oliviers, ses pratiques commencèrent à arriver et il eut bientôt assez à les contenter. Amra, toujours immobile, ne perdait pas de vue un instant les collines. La présence de Ben-Hur dans la vieille maison lui avait causé une joie inexprimable. Il avait essayé de la décider à se rendre dans une demeure moins désolée, mais elle avait refusé. Elle aurait voulu le voir reprendre possession de son ancienne chambre, rester absolument dans l'état où il l'avait laissée, mais il jugeait le risque d'être découvert trop grand. Par-dessus tout, il tenait à ne pas attirer l'attention. Il put seulement lui promettre de venir souvent la voir de nuit. Force lui fut de se contenter de cette promesse. Immédiatement, elle avisa aux moyens d'assurer son confort et de rendre heureuses les heures qu'il passerait auprès d'elle. Incapable de se faire à l'idée qu'il n'était plus un enfant, elle résolut d'avoir toujours à lui offrir quelques-unes des friandises qu'il préférait autrefois. Dans la soirée qui suivit le retour de son maître, elle se rendit plutôt que de coutume au marché, où elle entendit raconter, tandis qu'elle s'attardait à choisir le meilleur miel possible, une étrange histoire. Le narrateur était un des hommes qui éclairait le tribun au moment où il pénétrait dans la cellule murée de la tour Antonia. Et il expliquait avec force détail comment ils avaient découvert les prisonnières sans omettre leur nom et le récit de la veuve elle-même. Amra l'écouta jusqu'au bout, avec l'émotion que seule pouvait éprouver une créature aussi dévouée. Elle termina ses achats et rentra au palais comme en rêve. Quel bonheur ne tenait-elle pas en réserve pour son garçon ? Elle avait retrouvé sa mère ! Elle se déchargea de son panier en pleurant et en riant tout à la fois. Puis, une pensée soudaine la frappa de stupeur. Cela le tuerait d'apprendre que sa mère et Tirza étaient atteintes de la lèpre. Il s'annirait sur le mont du mauvais conseil pour les chercher dans les tombeaux infectés. La maladie s'attacherait à lui et il partagerait leur affreux sort. Que fallait-il donc qu'elle fît ? Elle réfléchit longtemps, puis elle prit une résolution que lui dictait son affection pour la famille de son maître. Elle savait que les lépreux avaient coutume de quitter, vers le matin, les sépulcres qui leur offraient un asile et de descendre au puits d'En-Rouguel afin d'y chercher de l'eau pour la journée. Ils apportaient leurs cruches avec eux, les posaient sur le sol non loin du puits et se retiraient ensuite pour revenir les chercher lorsqu'on les avait remplis. Sa maîtresse et Tirza y viendraient certainement aussi, car la loi était formelle et n'admettait pas de distinction. Il n'y avait parmi les lépreux ni riches ni pauvres. Après avoir décidé de ne rien dire à Ben-Hur de l'histoire qu'elle venait d'apprendre, Amra s'occupa à remplir son panier, puis, à l'approche du jour, elle prit une cruche et se glissa hors de la maison pour aller attendre les deux femmes. Peu après le lever du soleil, les habitants de la colline commencèrent à paraître devant les portes de leur tombeau. Un peu plus tard, on les vit s'avancer par groupes, jeunes enfants, femmes portant des cruches sur leurs épaules, hommes vieux et faibles, marchant péniblement à l'aide de bâtons et de béquilles. Les uns s'appuyaient sur les épaules des autres, Les plus misérables étaient couchés comme des tas de haillons sur des litières. Cette communauté d'inexprimable souffrance était éclairée par un rayon de charité et d'amour qui rendait la vie supportable et parfois même presque attrayante à ces pauvres victimes d'un mal sans espoir. De sa place près du puits, Amra ne perdait pas de vue ce cortège de spectres. Plus d'une fois, il lui sembla reconnaître celle qu'elle cherchait. Elle ne doutait pas qu'elles ne fussent dans la montagne et se disait qu'elles ne pourraient manquer de descendre et de s'approcher à leur tour, quand tous ceux qui demandaient de l'eau auraient été servis. Il y avait près du pied de la montagne un tombeau dont la large ouverture avait plus d'une fois attiré l'attention d'Amra. Une énorme pierre se trouvait près de la porte. Le soleil devait en éclairer l'intérieur pendant les heures les plus chaudes du jour et il semblait qu'aucune créature vivante ne pût habiter là. Pourtant, à sa grande stupéfaction, la patiente égyptienne en vit enfin sortir deux femmes qui se soutenaient et se guidaient mutuellement. Elles avaient toutes les deux des cheveux blancs et paraissaient également vieilles, mais leurs vêtements n'étaient pas déchirés et elles regardaient autour d'elles comme si cet endroit eût été nouveau pour elles. Amra crut même apercevoir qu'elle reculait à la vue de la hideuse assemblée dont elle faisait partie. Son cœur se mit à battre plus vite, elle ne les quittait pas des yeux. Elles restèrent un moment devant la pierre roulée devant la porte du sépulcre, puis lentement et d'un air craintif, elles se mirent en route pour gagner le puits. Quand elles n'en furent plus qu'à une petite distance, plusieurs voix s'élevèrent pour les maudire. L'homme qui puisait l'eau ramassa quelques cailloux pour les leur jeter, tandis que tous les lépreux, groupés plus en arrière sur le flanc de la colline, criaient « Les souillés! Les souillés !» Sûrement, se dit Amra en voyant qu'elles continuaient leur chemin, sans comprendre la raison de la désapprobation que soulevait leur approche, sûrement, ce sont des étrangères qui ne connaissent pas les usages auxquels les lépreux doivent se conformer. Elle se leva pour aller à leur rencontre, en emportant avec elle sa cruche et sa corbeille. « Quelle folle !» s'écria une des femmes debout près du puits, « d'aller porter ainsi du pain à des mortes, et penser qu'elle est venue les attendre ici, au lieu de leur donner rendez-vous près de la porte de la ville. » Amra s'inquiétait peu de tous ces commentaires, mais quand elle ne fut plus qu'à quelques pas des lépreuses, elle s'arrêta en se demandant si l'une de ces femmes pouvait bien être sa maîtresse qu'elle avait tant aimée, dont elle se plaisait souvent à baiser les mains dans l'élan de sa gratitude et dont la beauté était restée gravée dans sa mémoire. Et l'autre serait Tirza, l'enfant dont elle avait calmé les pleurs et partagé les jeux, cette Tirza souriante et gracieuse, à la voix si douce, la joie de la maison. Le cœur de l'Égyptienne se brisait à cette pensée. « Cela ne se peut pas, » se dit-elle, « ce sont de vieilles femmes que je n'ai jamais vues, je vais m'en retourner. » Elle allait repartir quand une des lépreuses l'appela par son nom. Elle laissa tomber sa cruche et se retourna toute tremblante. « Qui m'appelle ?» demanda-t-elle. « Amra !» répéta la voix. Ses yeux, démesurément ouverts, se fixèrent sur la personne qui venait de parler et elle cria. « Qui êtes-vous ? Nous sommes celles que tu cherches !» Amra tomba sur ses genoux au bord du chemin. « Oh, ma maîtresse, que ton Dieu qui est devenu le mien soit loué de ce qu'il m'a ramené vers toi !» Et la pauvre créature continuait d'avancer en se traînant sur ses genoux. « Arrête, Amra, n'approche pas de nous ! Souillez, souillez !» À ces paroles, Amra courba son visage vers la terre en pleurant si haut qu'on l'entendit jusqu'au puits. Tout à coup, elle se releva. « Oh, ma maîtresse, où est Tirza ?»« Me voici, Amra. Ne veux-tu pas m'apporter un peu d'eau ?» Amra repoussa les cheveux épars sur son visage et courut à son panier qu'elle découvrit. Tous ses instincts de servante se réveillaient. « Voyez, disait-elle, voilà du pain et de la viande. » Elle aurait étendu une nappe sur le sol si sa maîtresse ne l'avait retenue. « Ne fais pas cela, Amra, lui dit-elle. « Ces gens là-bas te lapideront et refuseraient de nous donner à boire. Laisse ton panier ici et va remplir ta cruche, puis nous emporterons le tout avec nous dans le tombeau. Pour aujourd'hui, tu nous auras rendu tous les services permis par la loi. Hâte-toi, Amra !» Les gens sous les yeux desquels cette scène avait eu lieu firent place à la servante et lui aidèrent même à remplir sa cruche, touchés qu'ils étaient de la douleur empreinte sur son visage. « Qui sont-elles ? » lui demanda une femme. Amra répondit humblement, « Elles ont été bonnes pour moi autrefois. » Elle plaça la cruche sur son épaule et, dans son désir de les servir, elle aurait oublié toute prudence si le terrible cri d'avertissement ne l'avait forcée à poser l'eau auprès du panier et à reculer de quelques pas. « Merci, Amra, » lui dit sa maîtresse en prenant possession de ses objets. « Tu as été très bonne pour nous. »« Ne puis-je plus rien faire ?» demanda l'Égyptienne. La main de la veuve était déjà posée sur l'anse de la cruche, car la soif la dévorait. Mais elle leva la tête et, oubliant de boire, elle s'écria « Je sais que Judas est revenu à la maison. Je l'ai vu, il y a 2 nuits, dormant près de sa porte. Je t'ai vu l'éveiller. » Amra joignit les mains en poussant une exclamation d'étonnement. « Maîtresse, tu l'as vu et tu n'es pas venue près de lui ?»« C'était vouloir le tuer. Plus jamais je ne pourrai le serrer dans mes bras. Plus jamais je ne l'embrasserai. Oh, Amra, Amra, je sais que tu l'aimes. » « Oui, s'écria la fidèle servante qui s'agenouilla de nouveau en pleurant, je mourrai pour lui s'il le fallait. Prouve-le-moi, Amra, je suis prête à le faire. Alors, ne lui dis jamais où nous sommes et que tu nous as vus. Je ne te demande que cela, Amra. Mais il vous cherche, il est venu de loin dans l'espoir de vous trouver. Il ne faut pas qu'il nous trouve, il ne faut pas qu'il devienne semblable à nous. Écoute-moi, Amra. » Tu continueras à nous servir comme tu l'as fait aujourd'hui. Tu nous apporteras le peu dont nous avons besoin. Cela ne durera plus longtemps. Tu viendras ici chaque soir et chaque matin. » Et sa voix tremblait, son courage menacé de l'abandonner. « Et tu nous parleras de lui. M'as-tu comprise ?»« Oh, ça sera si dur de l'entendre parler de vous, de le voir continuer ses recherches, d'être témoin de son amour pour vous et de ne pouvoir lui dire « Elles sont vivantes !» « Pourrais-tu lui dire que nous sommes bien, Amra ?» La servante cacha sa tête dans ses bras. « Tu ne le pourrais pas, » continua sa maîtresse. « Aussi vaut-il mieux te taire entièrement. Nous t'attendrons tous les jours. Adieu. » « Le fardeau que tu m'imposes sera lourd à porter, maîtresse, » balbutia Amra. « Combien plus dur ne serait-ce pas pour toi de le voir devenir ce que nous sommes ?» répondit la mère en tendant le panier à Tisra. « Reviens ce soir. » répéta-t-elle en se chargeant de la cruche, après quoi elles regagnèrent le sépulcre abandonné. Amra attendit qu'elles eussent disparu à ses yeux. Elle reprit ensuite tristement le chemin de la ville. Dès lors, elle prit l'habitude de venir soir et matin à la même place et de veiller à ce que ses anciennes maîtresses ne manquassent de rien. Le tombeau, si pierreux et désolé fut-il, était moins triste que la cellule de la tour Antonia. Le soleil endorait la porte, la nature étendait alentour ses splendeurs, et puis il est plus aisé d'attendre la mort avec confiance quand on découvre au-dessus de soi les profondeurs de la voûte des cieux.